On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Alors, Mathieu, ce week-end, ma blonde Sophie s'est procuré un livre qui fait beaucoup jaser en France, qui s'intitule Transmania. C'est sur l'idéologie trans. Et les deux auteurs de ce livre-là, on met à partir, là, ils se font censurer un peu partout. Parle-nous de ça.
Ouais, en fait, c'est la mairie de Paris qui a lancé le signal. Donc, la mairie de Paris, dirigée par Anne Hidalgo, et puis plusieurs adjoints ont dit, puisqu'il y avait une publicité qui avait été prise à Paris pour la promotion du livre Transmania par Stern et Mouton. Et ils ont dit, ah là là, c'est un livre qui fait la promotion de discours haineux, c'est un livre transphobe, c'est un livre sous le signe de la haine. Dès lors, la ville de Paris est une ville inclusive, c'est contre les valeurs de Paris. Donc, on interdit, on veut retirer les publicités pour ce livre dans Paris parce que les opinions qui s'y trouvent, d'ailleurs, c'est la formule toujours utilisée, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit, comme le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Dès lors, il est permis de censurer puisque c'est pas une opinion, ni un délit. Puis là, quand tu vois qu'est-ce qui rentre dans la catégorie de transphobie, mais c'est toute remise en question de l'idéologie transgenre radicale. Or, ce qui est assez fascinant, c'est que le livre répond à une question assez angoissante aujourd'hui par plusieurs qui sont très, très inquiets de cette poussée de cette idéologie qui mord sur les jeunes générations et tout ça. Donc là, on est dans ce moment où il y a une tentative de censure réelle du système. Les deux auteurs notent d'ailleurs que dans les librairies, le livre est souvent caché. Tu sais, on le fourgue vraiment en dessous. C'en est assez gênant. Dans les médias, ils sont un peu accueillis, mais pas partout, notamment pas sur le service public pour l'instant. Mais le livre est premier dans les ventes Amazon, premier dans les ventes de la FNAC. Donc, la FNAC est une forme d'équivalent de Renaud-Brée, si on veut. Donc, c'est assez particulier. Et qu'est-ce qu'on veut censurer là-dedans? C'est que les deux jeunes filles remettent en question l'idéologie de genre, mais dans toutes ses dimensions. Par exemple, elles remettent en question l'idée qu'un homme il suffit qu'un homme veuille se sentir femme pour devenir femme. Il dit non, il suffit pas. Elle remet en question les thérapies hormonales qui permettent les transitions en disant un instant, ça va pas changer le sexe de quelqu'un, ça va simplement dans les faits l'abîmer davantage qu'on ne le croit. Et il remet en question le sacrifice des femmes. Ça, c'est important. Donc, on met en question le sacrifice des femmes en disant, ben, par exemple, dans les sports, désolé, mais quand un homme décide de concurrence, un homme biologique concurrence avec des femmes, ben, c'est mauvais pour les autres femmes. Et là, on constate qu'aujourd'hui, dans le dogme diversitaire, la théorie du genre est vraiment le point à ne pas toucher. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, ben, c'est le triomphe de l'autodétermination de l'individu. Je serai ce que je veux être. Homme, femme, elf, Ninja Turtle, ce que tu veux, l'autodétermination prime. Et ce qu'on voit, parce que là, je le dis à la blague, mais on le voit que là, il y a, dans les discours autour de la transidentité, il y a une évolution maintenant. On dit, oh, mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'une appartenance à quelque chose qui ne serait pas le corps sexué humain? Donc, là, la censure de ce livre-là est assez brutale, je trouve. Donc, il est disponible. On met tout le système cherchant à en finir avec lui. Puis je reviens sur la mairie de Paris une seconde. Il y a un de ceux qui a plaidé pour la censure, mais qui a reconnu ne pas l'avoir lu. Et là, il a remercié une association militante qui prétendant avoir fait la recension, en disant « Ah, vous nous soulagez, on n'aura pas à le lire par nous-mêmes, mais censurer néanmoins. » Donc, on voit véritablement, on est en Occident aujourd'hui, la tentation de la censure revient. Je te donne deux exemples qui vont te faire un lien avec ça. C'était mercredi dernier à Bruxelles. Il y avait une conférence des nationaux conservateurs européens. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la droite nationale conservatrice, qui rassemblait des gens comme Nigel Farage, Éric Zemmour, Victor Orban, différentes tendances. La question n'est pas de savoir si on apprécie ou non. La question est de savoir que le maire de la commune a interdit l'événement, puis il y a eu une descente de police pour interdire l'événement. Hein? On est en Occident, il y a des flics qui interviennent pour interdire une conférence, puis Orban, qui est très critiquable, la question n'est pas là, elle a dit « La dernière fois qu'on m'a fait ça, c'est quand je résistais aux communistes en 88 ». Et en France, il y a quelques jours, c'est assez intéressant, là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a vu Dieu sait que j'ai pas de sympathie pour Mélenchon, mais qui a vu une de ses conférences interdites parce qu'on craignait pour les encore une fois, la sécurité publique, c'est toujours l'argument utilisé. Ah, crainte pour la sécurité, donc on annule l'événement. Puis moi, j'aime pas Mélenchon particulièrement, mais la liberté d'expression, c'est bon pour lui aussi. Et là, ce qui est drôle, c'est que les Insoumis, le parti de Mélenchon, les QS de France, ont dit « C'est scandaleux, la liberté d'expression est en danger. » C'est vrai, mais ils sont les premiers à chercher à interdire les propos qu'ils n'aiment pas. Les Insoumis, c'est des spécialistes de la censure. Là, quand ça leur tombe dessus, ils font « Ah !» Donc, quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant l'enjeu de la liberté d'expression qui se pose sur trois enjeux différents, trois questions différentes ces jours-ci. C'est fascinant.
L'arroseur arrosé pour Mélenchon. Je reviens à Transmania. Le livre, c'est une brique. Hein, c'est une méchante brique. Ouais. Et puis, Mathieu, il faut spécifier, là, c'est pas seulement qu'un pamphlet ou c'est de l'opinion. Là. On arrive là, avec des études. C'est basé sur des études et tout ça. Là. Donc, il y a un argument sérieux là-dedans. Tout ça. Et malgré ça, on dit que ben c'est pas recevable, ce discours-là.
Ben, encore plus, pourrait-on dire, parce que c'est documenté, parce que c'est soutenu, parce que c'est... Alors là, on peut... il y a deux stratégies. Il y a soit le silence, on n'en parle pas, soit on nous dit qu'on n'a pas le droit de le lire. Évidemment, il y a un effet Streisand là-dedans, comme d'habitude.
Ben oui.
Donc là, on dit « Ne lisez pas ce livre, vous n'avez pas le droit de le lire !» Comme un immortel, tu commences à... Donc là, le livre se vend assez bien, paradoxalement, mais il ne structure pas le débat public, justement parce qu'il documente les ravages de l'idéologie transgenre. Il y a quand même quelque chose là-dedans. On a cru qu'on pouvait faire en sorte qu'un homme ou une femme change de sexe. Dire, c'est, il y a des cas exceptionnels, j'entends, mais là, il y a une banalisation de ce discours-là depuis quelques années. Et il y a des effets physiques. Qui aurait pu croire un seul instant que tout ça pouvait se faire sans avoir des conséquences négatives? Et là, il s'intéresse notamment aux détransitionneurs. Ça, c'est intéressant. Donc, ceux qui ont engagé un processus de changement de sexe, mais qui sont revenus sur ça, qui ont fait marche arrière, qui sont souvent présentés comme des traîtres. Hein. Parce qu'autant celui ou celle qui veut changer de sexe est pris en charge par la mouvance transradicale, qui dit « T'es un héros, va jusqu'au bout, lâche pas », mais si tu reviens, t'es vu comme le traître à la communauté, celui qui a déserté. Donc, c'est vraiment, franchement, ensuite, on peut trouver que le style est polémique. Quand on lit le texte, on peut se dire « Bon, il y a des formules, ils sont permis des facilités ». OK, mais l'étude de fond est fouillée, elle est là, il faut répondre aux arguments et pas dire on va censurer des panneaux publicitaires.
Et le livre tombe bien parce que justement, il y a plein de pays qui sont en train de reculer. En Angleterre, interdit, l'Angleterre qui était vraiment l'endroit où justement il y avait le plus de transition de genre chez les mineurs. Maintenant, ils ont reculé, ils ont rétro-pédalé, ils ont interdit les bloqueurs de puberté aux mineurs parce qu'ils ont vu les dommages que ça fait. Donc, le livre tombe en plein dedans là, dans ce débat-là.
Ce qui le rend encore plus scandaleux. Parce que là, ça vient étayer, on pourrait dire scientifiquement, ce que le bon sens nous disait déjà. Tu sais, je veux pas avoir l'air du type bizarre, mais tout le monde savait très bien que pour l'immense majorité, programmer un changement de sexe chez un enfant, un adolescent, tout ça, c'est pas la norme. On n'est pas maître absolument de tout ce qu'on est. C'est-à-dire, on est déterminé biologiquement et notre anatomie n'est pas un choix. C'est la nature en a voulu ainsi. L'être humain, c'est pas un petit dieu qui décide de son sexe. C'est comme ça. On n'est pas dieu. On décide pas de tout dans notre vie. Bon. Alors, dans cette logique, donc c'est un livre qui vient poser un cran d'arrêt à une idéologie de la toute-puissance qui, par ailleurs, s'emparait du malaise existentiel des adolescents pour les transformer en cobayes, en chair à canon du progressisme technoscientifique d'aujourd'hui, soutenu par des entreprises pharmaceutiques qui ont vu là-dedans un marché immense. Et là, de temps en temps, il y a un livre qui frappe. Ça, c'est quand même, c'est intéressant. Alors, je compare pas l'archipel du Goulag parce que l'archipel du Goulag est un chef-d'œuvre littéraire, mais de temps en temps, le livre qui révèle la vérité sur un système idéologique doit être sinon censuré, à tout le moins laissé dans les marges pour qu'il n'affecte pas le débat public. Là, toute la question, c'est on va voir si tous ceux, là, les spécialistes qui nous disent toujours il faut se méfier de l'anti-science, hein, il faut se méfier des discours anti-scientifiques, il faut des études sourcées, des études documentées. Est-ce qu'ils vont prendre la peine de lire ce livre-là? Est-ce que les spécialistes de la radio-télévision fédérale au Québec, surtout de la radio de ce point de vue, qui nous répètent sans arrêt, qui tiennent pour acquis que la théorie du genre, ça va de soi, là, on entend ça souvent le matin. Là. Bon, mais est-ce que ceux-là vont lire le livre puis vont se dire, OK, on est obligé de tenir compte de ce qui se dit là-dedans? Peut-être qu'on avait tort dans certaines de nos affaires ou est-ce qu'ils vont décider de passer en laissant ça de côté?
Écoute, Mathieu, je dois te transmettre un message. Je suis allé dans une librairie à Montréal ce week-end et quelqu'un de la communauté juive est venu me me voir en disant, écoutez, si vous voyez Mathieu, pouvez-vous le remercier de ma part pour l'entrevue que tu as faite avec Bernard-Henri Lévy à CNews ce week-end, et c'était remarquable. Et là, je suis rentré chez moi, évidemment, je l'ai regardé, et effectivement, les gens, là, si vous pouvez aller voir, j'imagine sur ta page Facebook, tu as mis le lien.
Sur le site de CNews. Sur le site de CNews, tout est dispo.
OK, bon, alors sur le site de CNews, et donc il me disait, cet homme-là, hey, ils ont vraiment des atomes crochus, Bernard Lévy, puis Mathieu, je dis non, sur l'Europe, ils sont vraiment pas d'accord, absolument pas sur l'Europe, mais effectivement sur l'antisémitisme, parce que BHL vient de publier un livre qui s'intitule « Solitude d'Israël ». Est-ce que tu peux nous parler de cette entrevue-là?
Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai lu ça avec intérêt. Et parce qu'effectivement, j'ai plus de désaccord que de point d'accord avec BHL, mais je le prends au sérieux. Et son livre, je trouve qu'il est paradoxal, parce que BHL se porte à la défense, globalement, d'un État-nation conscient d'avoir une majorité ethno-culturelle qui ne doit pas devenir minoritaire, qui considère que la défense de la souveraineté nationale est plus importante que les injonctions moralisatrices des droits de l'homme, qui disent t'as pas le droit de te défendre, l'ONU est pas d'accord et tout ça, et qui défend une identité culturelle forte avec une part d'enracinement dont l'hymne national raconte l'histoire de 2000 ans d'un peuple qui veut retrouver sa terre qu'il n'a jamais abandonnée. Moi, je trouve ça magnifique, mais je trouve que ça cadre difficilement avec la philosophie politique de BHL. Donc, je l'ai interviewé, mais ça s'est bien passé. Franchement, c'était très courtois, à tout le moins j'en ai l'impression. Donc, j'essaie de lui présenter ses paradoxes. Je dis, toute votre philosophie politique depuis 50 ans vous a amené à condamner ce que vous célébrez en Israël. J'essaie de comprendre. Et puis lui-même, et quelquefois, il est dans certaines contradictions, il dit il se désole du retour de l'antisémitisme en Europe. Je suis d'accord, mais c'est pas le retour de l'antisémitisme européen tel qu'on l'a connu. C'est un antisémitisme d'importation qui est lié à certaines communautés de récents arrivants. Et là, on le sent mal à l'aise avec ça. C'est pas un problème d'immigration, c'est un problème d'intégration. Oui, mais on veut intégrer qui? Des populations immigrées. Donc, il y a quand même un petit lien entre les deux. De même, il nous dit « solitude d'Israël ». Israël est moins seul que vous ne le pensez, Bernard-Henri Lévy. Mais vous voulez pas de ses alliés. En Europe, les partis que vous avez combattus toute votre vie, les partis dits populistes, mais qui se veulent les alliés d'Israël aujourd'hui, eh bien, vous ne les aimez pas, vous n'aimez pas les alliés que vous avez. Or, à moins qu'on considère qu'une alliance se noue dans le ciel de la métaphysique, une alliance, c'est politique. Et l'alliance, c'est le droit des peuples à se défendre, c'est la communauté de civilisation occidentale et tout ça. Donc là, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il montre les paradoxes de Bernard-Henri Lévy, qui est un homme intelligent, un homme très courtois, mais un homme qui, sur cette question-là, est obligé de trouver un chemin intellectuel pour défendre tout ce qu'il a condamné dans sa vie sans donner l'impression de se renier.
Parce que c'est deux poids, deux mesures. Hein? Lorsque la France dit on veut pas, nous autres, être dissous totalement dans l'Europe, on tient à notre distinction, ce qui nous distingue des autres pays européens. On veut avoir les deux mains sur le volant, comme on dit ici au Québec, puis tout ça, puis protéger, bon, notre culture, notre langue, notre identité, etc. Là, non, c'est épouvantable. BHL est soudainement pour une grande Europe inclusive et tout ça, sans frontières, sans barrières. Mais, par contre, quand c'est temps de parler d'Israël, là, c'est important de protéger la distinction d'Israël. C'est vrai qu'il y a une contradiction totale.
Autant pour l'Europe, par exemple, il préfère la figure de l'Empire. L'Empire plus que l'État-nation. Bon, c'est une proposition qui existe dans l'histoire philosophique de l'Europe, mais globalement, l'État-nation, les peuples européens y tiennent, manifestement. Et ce qu'on peut se demander, c'est que les raisons qui font en sorte qu'on défend Israël, par exemple, sont les mêmes qui font qu'on peut défendre la France, le Danemark, la Suède, et ainsi de suite. Le contexte n'est pas le même, mais on peut dire qu'il y a un fondement qui s'appelle l'État-nation. Donc, on pourrait dire que l'histoire de cette interview, puis que, je précise, ça s'est très bien mené, on n'était pas avec des coups de bâton sur la tête, là, c'était des arguments, c'est comment trouver un chemin pour défendre ce qu'on a condamné toute sa vie, parce que soudainement, c'est plus important que ce qu'on a... qu'on a défendu toute sa vie. Alors, il nous dit, j'ai toujours été sioniste. C'est vrai, mais le sionisme est un nationalisme. Puis c'est pas, pour moi, nationalisme, c'est pas un gros mot. C'est un nationaliste qui voulait donner un État normal aux Juifs, c'est-à-dire avoir leur propre pays, leur propre État indépendant, leur propre démocratie. Il y a rien de plus normal que ça, mais comment réussir à se rendre par ce chemin quand on n'était pas habitué d'arpenter de tels chemins? C'était le...
Et écoute, en concernant la montée de l'antisémitisme, Mathieu, tu as vu ça, il y a un rabbin à l'Université Columbia qui a demandé aux universitaires juifs, aux étudiants juifs de l'Université Columbia de quitter l'université finalement puis s'en aller ailleurs parce qu'il y a vraiment une montée épouvantable des attaques contre des juifs parce qu'ils sont juifs dans une des plus grandes universités aux États-Unis. Ah, un petit problème de son, mais je trouve ça absolument épouvantable, cette nouvelle-là, vraiment, de dire là qu'on est rendu là, où, on est rendu là à dire aux étudiants juifs, votre sécurité est menacée, parce que c'est comme ça à une des plus grosses universités aux États-Unis, et ça montre d'ailleurs, Luc La Liberté nous en parlait l'autre jour, on dit qu'il y a une montée de l'antisémitisme de 140% au cours de la dernière année aux États-Unis, donc c'est vraiment, on parlait beaucoup d'islamophobie, on en parle énormément, mais il y a énormément d'antisémitisme, et je trouve ça vraiment terrifiant que dans une université, on attaque des gens, pas pour leurs opinions politiques, hein, pas parce que ce sont des gens qui appuient le régime israélien. Non, non, on les attaque parce qu'ils sont juifs. C'est une attaque contre des juifs parce qu'on met tous les juifs dans le même panier. C'est drôle, on dirait jamais ça des musulmans. Hein? On nous dit tout le temps, pas d'amalgame. Il faut pas mettre tous les musulmans dans le même panier, mais il faut mettre tous les juifs dans le même panier. Bref, à regarder sur le site de CNews, la rencontre Mathieu Bock-Côté, Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup Mathieu, bonne journée. Salut.